dans la cour des grands. Une émission réalisée par les élèves du collège Jacques Prévert de Pont-Vallin. Bonjour et bienvenue dans la cour des grands. Nous sommes de nouveau au studio en compagnie de Monsieur Després, qui, je le rappelle pour les auditeurs qui nous rejoignent, est un historien et spécialiste de la résistance dans la Sarthe. C'est notre troisième interview en sa compagnie. Dans l'épisode précédent, nous avions annoncé la résistance des femmes dans la Sarthe. Aujourd'hui, pour lui poser des questions, nous avons Solal, Steve, Marie, Zoélie, Jade. À la régie, Lana. Mais avant de poursuivre cet entretien, on retrouve le dernier épisode de la saison 1 du Tueur Maléfique, écrit et raconté par Steve.
L'histoire du Tueur Maléfique, présenté et écrit par Steve, épisode final. Précédemment, Minato et Jiraiya ont trouvé Itachi, ils ont tué Kisame Oshigaki et Jiraiya a attaqué Itachi et Minato. Suite. Je suis Pain, allié d'Ishiki Otsutsuki, j'ai tué Jiraiya il y a 5 ans. Je vais vous dire ce qui s'est passé. Revenons 6 ans en arrière où Jiraiya s'infiltra dans le royaume caché de Kiza pour m'éliminer. Jiraiya avait activé son mode ermite et m'attaqua avec son orbe tourbillonnant géant. Je contra son attaque avec mon contre total. Cette attaque repousse l'attaque de l'ennemi et la renvoie sur lui, multipliée par 2. Jiraiya était très affaibli. Avant de le tuer, je pris son apparence pour me faire passer pour lui. Il mourut dans l'océan Pacifique. Voilà. Minato dit « Espèce d'enflure, je vais te tuer !» Pain dit « Tu crois vraiment que tu as le niveau ?» Minato attaqua avec son attaque signature. Minato, éclair jaune, foudroyant. Contre total, Pain dit « Vous êtes fini. Katon, boule de feu suprême. Futon, paume de la bourrasque. Sweeton, dragon à queue. Raiton, éclair profondeur. Doton, ficelle de pierre. » Itachi et Minato moururent. Fin de la première saison.
Nous sommes de nouveau sur le plateau avec Monsieur Després. Alors Monsieur Després, la dernière fois que vous êtes venu, nous avions terminé notre émission par la libération du sud de la Sarthe et des femmes qui ont été tondues après cette libération. Qu'en est-il des femmes résistantes dans le sud de la Sarthe? Est-ce qu'il y en avait?
Les femmes dans la résistance, il y en avait moins que les hommes. Bon, mais ça, c'était lié à l'époque où il y avait moins de femmes qui étaient dans des fonctions de responsabilité politique, dans des fonctions de gouvernement, etc. Il ne faut pas oublier que les femmes n'ont eu le droit de vote qu'après la guerre. Avant, elles n'avaient pas le droit de voter. Donc la guerre a au moins donné ça. Les femmes dans la résistance, alors, qu'est-ce que je vais vous donner comme exemple ? Bon, un exemple de tous les jours. Bon, par exemple, Madame Auduc, la femme d'Alfred, a fait toute une série de travaux, de renseignements. C'est-à-dire que, bon, elle observait et elle était capable de se rappeler des numéros d'immatriculation des camions allemands. Quand on avait ce numéro-là, on savait à quelle unité ça appartenait. Donc à partir d'un camion, on pouvait dire il y a dans le coin un régiment, un escadron, etc. Et donc ça, on le donnait au renseignement. Et ça repartait radio en Angleterre. Et là, ils étaient capables, sur une grande carte, de mettre des petits pions en disant là, il y a telle unité allemande, là, il y a telle unité allemande. C'est comme ça que ça se faisait. Et ça, c'était très important, ce renseignement-là. D'autres ont été des femmes plus combattante, j'allais dire. Et il y en a une que j'aime bien. C'est une princesse. C'est la princesse Noor Inayat Khan. Son nom de guerre, c'était Nurse ou Madeleine. Elle est atterrie, elle n'a pas été parachutée, elle a été posée par un petit avion, Lysander, ce qu'on appelait Lysander. C'était un petit avion monomoteur qui pouvait transporter 6 personnes et qui était capable de se poser à peu près partout, hein, sur les routes, dans les champs. Et cette princesse-là a été larguée le 16 juin 1943. Et elle a rejoint les groupes dont on a parlé, Physician, Bricklayer et Satiris. Et elle est cachée dans la Sarthe à Brulon, chez le colonel Mascarel de la Corbière. Elle est radio. Elle a son matériel radio et elle informe l'Angleterre tout le temps. Il y a ça, des renseignements que d'autres ont ramenés, par exemple, mais aussi des faits d'armes de la résistance. On a coupé 10 poteaux téléphoniques sur la ligne Le Mans-Tours. On a fait sauter le petit pont de tel endroit ou tel endroit. Et la Gestapo va s'intéresser très fortement à elle à un moment donné parce que quelqu'un à qui on a fait trop mal sous la torture a parlé. Elle a été dénoncée. Donc elle s'enfuit et elle va se cacher à Paris. Mais là, la Gestapo va continuer à la prendre. Et la princesse Nour a été arrêtée le 13 octobre 1943. Ça y est, elle est arrivée le mois de juin et au mois d'octobre, elle est arrêtée à Paris. Elle va être torturée affreusement, puis déportée en Allemagne au camp de Natzwiller. Et le 6 juin 1944, le jour du débarquement, les SS vont la décapiter à la hache au camp de Natzwiller. Vous voyez à quel niveau d'horreur on était arrivé. Et ma princesse, elle a perdu la tête. Une autre qui s'est passée pas loin d'ici, à Château-l'Ermitage, un parachutage, mais le navigateur de l'avion s'est trompé. Il a appuyé sur le bouton vert en disant « Vous pouvez sauter », mais on n'était pas arrivé à destination. La destination, c'était Vendôme, et lui, qu'est-ce qu'il a fait ? Et donc tout le monde a sauté. Oui, et c'est pas marrant quand tu sautes dans l'endroit où tu ne dois pas arriver, où tu n'as pas de carte, où tu n'as pas de renseignements, où tu ne sais pas sur qui tu vas tomber. Et donc là, dans ce groupe-là, il y a trois femmes, et une des femmes est indisposée, elle va avoir ses règles, et le fait d'être sanglée dans le parachute, le choc d'ouverture lui a fait très mal au ventre, et elle se sent pas capable de reprendre le combat tout de suite. Et donc, elle est récupérée par une petite grand-mère qui sait ce que c'est et qui va lui dire « Bon, tu viens chez moi, on va te soigner pendant une semaine, tu vas être tranquille, et puis après, on s'arrangera pour que tu repartes. » Et donc, elle reste, effectivement. À un moment donné, quand elle se sent mieux, elle demande à ce qu'on lui donne un vélo. Et elle va partir sur une base arrière, elle va partir de Château-l'Ermitage pour rejoindre les maquis de Bretagne, donc le maquis de Saint-Marcel.
Ça fait beaucoup quand même la route.
Ça fait beaucoup, mais ça aussi c'est de la résistance. Donc elle a fait sa route et elle est partie. Le reste du groupe a volé une voiture allemande de l'organisation TOT et est parti pour Vendôme. Arrivé à Vendôme, ils tombent dans un barrage, et là, il faut qu'ils se sauvent vite. Donc, ils se mettent à courir. Ils sont tous abattus par les Allemands. Et il y avait une des femmes qui était là, qui a réussi à se cacher dans un fossé. Les Allemands ont failli ne pas la voir, et quand ils l'ont vue, ils se sont acharnés dessus avec des baïonnettes. Et ils l'ont tuée. Donc, la jeune femme qui était indisposée, elle a eu la vie sauve.
Racontez-nous l'histoire du plus jeune résistant sartois.
C'est le dernier, effectivement, résistant qui reste. Il a 98 ans aujourd'hui, il s'appelle Bernard Vaupré. Il est rentré dans la résistance en 1940, sans le savoir. En 1940, il vient d'avoir son certificat d'études, il a 13 ans. Et son père décide de le mettre à travailler dans une ferme. Les études se terminent à 14 ans. Mais là, lui, il n'a pas l'âge, mais il a son certificat d'études. Alors son père, il n'a plus rien à attendre de l'école, il va aller travailler. Il trouve un emploi dans deux petites fermes côte à côte, chez Madame Hamelin et chez Monsieur Dupuis. Et ça commence au mois de septembre 1940. Monsieur et Madame Dupuis n'ont pas d'enfants. Monsieur Dupuis vient juste de rentrer de la guerre, dans des conditions un peu particulières. Il s'est sauvé. Après que son régiment a été écrasé à Péronne, et pendant 3 semaines, il a marché vers le sud pour rentrer chez lui. Il n'avait aucune envie d'être prisonnier des Allemands, il n'avait aucune envie de retomber dans une organisation militaire, celle du maréchal Pétain, et donc il arrive chez lui. Il y avait aussi que Dupuis faisait partie d'une organisation secrète à l'intérieur de l'armée qui s'appelait LORA, l'organisation de résistance dans l'armée, et son idée à lui, c'était d'arriver au Mans avant les Allemands et d'enlever le plus d'armes possible dans la caserne et d'aller les cacher. Donc il va aller enlever 3 fusils mitrailleurs qu'il va attacher sur un vélo et il va se débiner pour venir cacher ça sur la route de Pont-Vallin entre Moncey, disons à l'air, entre Moncey et Château-l'Ermitage. Alors lui, il est très content d'avoir un petit garçon chez lui, parce que c'est le petit garçon qu'il aurait aimé avoir et puis qu'il n'a pas. L'autre côté, Madame Hamelin, son mari est prisonnier de guerre, il est dans un camp de prisonniers en Allemagne, et donc Bernard va essayer d'obéir à ses deux patrons et de faire ce qu'il peut faire. Ça ne va pas durer longtemps, puisque au mois de novembre 1940, les gendarmes arrivent chez son père, et lui disent « Comment ça se fait que votre fils ne va plus à l'école ? Il est où ?» Alors le père de Bernard dit « Je l'ai mis à travailler, on a besoin d'avoir un peu d'argent à la maison pour élever tout le monde. » Alors les gendarmes disent « Non, vous n'avez pas le droit, la fin de l'école c'est à 14 ans, c'est pas à 12 ans, il va falloir le remettre à l'école. » Alors bon. Il va y avoir une négociation entre le directeur d'école, le secrétaire de mairie, le maire et les gendarmes. Et ils vont décider que sur les 2 années qu'il lui reste à faire, il ferait ce qu'on appelle l'école d'hiver. Il ne travaillerait à l'école que novembre, décembre, janvier, février. Les autres mois de l'année, il travaillerait dans les deux fermes, chez l'un et chez l'autre. Alors Bernard va naviguer comme ça. Et il va commencer à tendre l'oreille sur ce qu'il entend chez les uns et chez les autres. Il va trouver que chez Dupuis, il y a des visites, quand il y a des hommes qui viennent visiter Dupuis, et à ce moment-là, Dupuis lui dit « Bon, peut-être tu sors, hein, tu t'en vas dehors, va faire un tour sur la route, et puis si tu voulais une voiture d'Allemand, hein, tu nous le dis. » Bon, Bernard, il va sur la route, et puis il regarde s'il y a quelque chose qui vient. Puis petit à petit, Bernard, il va comprendre qu'il y a des choses qui se passent. Hein, il n'est pas idiot, loin de là. Il en parle un petit peu à son patron, comme ça. Et le patron lui dit, toi, tu fermes ta gueule, et puis ça va bien. Mais Madame Hamelin, elle est plus bavarde. Et elle lui raconte les nouvelles qu'elle a entendues au marché, qu'elle a lues dans le journal, etc., sur ce qui se passe autour. En 1942, Bernard arrive au bout à sa majorité, il a 14 ans, il ne va plus à l'école, donc il va être en permanence chez ses deux patrons. Et là, Louis Dupuis va commencer à le mouiller, comme on dit, c'est-à-dire le compromettre dans des histoires de résistance, alors que Bernard ne se rend pas encore très bien compte dans quel bazar il est. Et Louis Dupuis va simplement lui dire, bon, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Tu vas aller porter ce courrier à Saint-Gervais-en-Belin chez M. Cordier. Tu vas aller porter ça à la petite cabane qui est à côté du pont chemin de fer de l'hôpital, parce que c'est la cabane des garde-voies. et tu poseras ça, tu verras, il y a une casserole rouge, tu mettras ton message dedans avec un caillou dessus. Puis Bernard, ben, il faisait ça. Il y allait, il passait. Alors, parce qu'on appelait, allez, aujourd'hui on dit, on n'appelle plus ça, mais par les rottes. Vous avez entendu ça, du mot rotte. Une rotte, c'est un petit chemin. C'est un sentier qui passe à travers les champs, c'est un raccourci. Et lui, il connaissait tous les raccourcis du coin, donc pour aller porter ses messages, ben, c'était bien plus commode de passer par là, sans risquer d'être pris ni par les Allemands, ni par la police, etc. Et puis, Bernard va rencontrer Raymond Cordier et va comprendre que M. Cordier est un des responsables des garde-voies. Ce M. Cordier va le mettre en constat avec quelqu'un qu'on va appeler le capitaine Philippot. Et en fin de compte, son vrai nom, c'est Golupot. Et donc, le capitaine Philippot organise toutes les garde-voies, c'est quoi ? C'est une patrouille à pied, hein, de 2 heures sur entre tel kilomètre et tel kilomètre pour voir si la voie n'a pas été sabotée. Donc c'est une action de prévention contre la résistance, hein. C'est clair. Mais en même temps, il y a un double jeu. Tous ceux qui sont là-dedans sont censés, au moins jusqu'au début 42, être des gens favorables à la résistance. Mais à partir de 42, on va se rendre compte que ces gens-là laisse passer des choses, participe à du sabotage, et on s'en aperçoit mais quand le train déraille. Mais le train, il déraille 25 km plus loin. Le sabotage est fait au pont de l'hôpital, c'est là où il y a la coopérative agricole actuellement à Saint-Ouen-en-Belin, et le train, ben, il continue. Et il va dérailler après Écommois, sur la route de Pont-Valin. Après le passage à niveau de la route de Pont-Valin, quand on arrive à Écommois, là, après, à la Bernerie, là, le train, les roues en l'air, et puis... Alors bon, tant qu'on fasse l'enquête, et bien entendu, le capitaine Philippot jure sur l'honneur qu'ils ont strictement rien fait. Bon, fais pas de commentaires, il a pas menti, mais il a simplement protégé le rôle de résistant. Bon, pour Bernard, je vais accélérer, parce qu'on va y passer l'heure. Hein. En 1943, au mois de février, son patron lui dit, bon ben... Bernard, il faudrait que tu viennes avec moi me donner un coup de main. Faut découper des pneus de voiture. Découper des pneus de voiture avec un couteau, c'est pas commode, c'est épais, il y a de la ferraille dedans. Et il découpe des grosses rondelles, comme ça, avec un trou dedans. Et Bernard, il dit, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Alors, son patron lui dit, attends, je vais te montrer. Je vais te montrer, mais tu fermes ta gueule. Je veux pas t'entendre parler nulle part à personne. Ah oui, bon, d'accord, mais bon, Bernard voudrait bien savoir ce que c'est. Alors le patron lui montre. Il y a une grosse charrette qui est là, la charrette est soulevée sur un cric, on dévisse le boulon qui tient la roue, on sort la roue, on enfile la rondelle de caoutchouc sur l'axe, on remet la roue et on serre. À quoi que ça va servir, hein? Ben, ça va servir simplement à éviter que la roue cogne contre la caisse de la charrette quand elle roule. Il y aura la rondelle en caoutchouc entre les deux, qui va empêcher que ça fasse du bruit. Et puis à un moment donné, ben, Louis Dupuis lui dit, ben, écoute, maintenant t'es assez grand, je vais t'expliquer, mais je t'avertis, ferme ta gueule, ne parle à personne, ne parle pas. Voilà, ça, on va aller ramasser du bois en forêt la nuit prochaine. Et quand je dis du bois, ça va être des gros bidons de 180 kilos que les avions vont lâcher avec des parachutes et qui contiennent des armes, des munitions, des... Et ça évitera que la charrette chargée fasse du bruit et qu'on l'entende. Du coup, Bernard était détenteur d'un secret. Et maintenant, il fallait vraiment qu'il ferme sa gueule. Le lendemain, c'était le jour du parachutage à 5 heures du matin. Il fait nuit encore. Et Bernard est interdit de parachutage. Son patron lui dit, tu viens pas, de toute façon, t'es chez Madame Hamelin, t'es pas chez nous. Tu restes chez Madame Hamelin. Et après, tu verras, tu viendras après. Donc le parachutage a lieu, il y a un passage, il y a 10 containers, donc vous voyez, 180 multipliés par 1800 kilos d'armement, de munitions, etc. Et il y a une équipe de ramassage sur le terrain, c'est le capitaine Philippot qui commande, et les gars ramassent ces gros containers qui sont accrochés dans les arbres, il faut planquer les parachutes, il faut entraîner tout ça. Ils n'ont pas assez de temps pour le mettre sur la charrette à ce moment-là. Donc ils mettent l'endroit où c'est parachuté, C'est un ancien champ de tir de l'armée américaine de 1919. Et donc, il y a des grandes tranchées. Et donc, ils mettent les conteneurs dans la tranchée, et ils mettent du bois coupé par-dessus, des rondins, etc. On ne voit plus rien. Il y a deux gars qui restent cachés pour donner l'alerte. Et puis, tout le monde se disperse. Bon, donc, le lendemain, ils attellent le cheval, et ils passent par un grand détour, par les chemins dans la forêt, et ils vont charger les conteneurs pour les ramener. Il faudra faire quatre voyages, parce que les ponts en bois sur le ruisseau sont pas assez solides pour supporter les charrettes chargées. Et donc, c'est Bernard, le brave Bernard, qui va conduire le cheval sur la route départementale. Là où passent les convois allemands, là où passe la police, là où passe... C'est un peu vachard, hein. Mais ils ont pensé que c'était le meilleur système parce que c'est un gamin, il a 14 ans, et que personne n'ira l'embêter. Même pas les Allemands. Il fait 2 kilomètres sur la route, puis il rentre dans le bois pour aller à l'endroit où on dépose les conteneurs. Donc...
Mais les grands trucs où il y avait les armes dedans, ils étaient cachés sous d'autres trucs ou ils étaient comme ça dans la charrette posée
Tu parles, t'imagines qu'ils les ont mis comme ça posés dans la charrette. Ils ont mis dans la charrette et par-dessus, ils ont mis des rondins de bois.
Ah oui.
Hein, et donc, tu avais une charrette de rondins de bois avec au milieu, au cœur, les conteneurs empilés les uns sur les autres entre... Deux lignes de stères de bois.
Ok.
Ouais, pas fou. Bon, donc, voilà en gros. Il y a eu un deuxième parachutage une semaine après. Et là, Bernard a été autorisé par son patron à venir voir le parachutage, à comprendre ce qui se passait. Là, le parachutage a été mal fait. Les pilotes n'ont pas largué les conteneurs quand il fallait. Donc, les conteneurs ont été échelonnés sur 2 kilomètres. Et donc, il a fallu aller chercher ça, accrocher dans les pins. C'était un grand bazar. Mais à la différence du premier, les hommes qui étaient là étaient tous armés. Ils avaient récupéré des armes du premier parachutage. Et là, ils étaient le long de la route départementale. Ils étaient le long du chemin de Château-Gaillard qui rejoint la route de Pont-Vallin, de La Flèche, pardon. Et bon... Et Bernard va revenir avec cette affaire. Donc, point sur le parachutage. Mais à partir de ce moment-là, Bernard est dans la résistance. Qu'il le veuille ou non, s'il se fait prendre, s'il se fait torturer, s'il se fait frapper, il faut qu'il se taise. Il ne faut rien dire pendant 48 heures si on peut. Bon, voilà pour les parachutages.
Est-ce qu'il se fait prendre alors ?
Non, Dieu merci, il était encore là samedi dernier. Non, mais il va... Le 23 juin 1944, le débarquement a eu lieu le 6. Là, on en avait parlé la dernière fois, c'est le moment où toute la Gestapo est en train de se prendre sur les réseaux de résistance du Sud-Sarthe, qui sont tous arrêtés les uns après les autres. Le réseau local du château d'Amenon, tout le monde est arrêté.
Mais donc, il devient quoi, le père de Bernard ?
C'est pas son père. C'est son patron.
Oui, mais son père.
Ah ben son père, il est parti. Il attendait d'avoir une ferme à Marigny-l'Oyer, qu'il n'arrivait pas à avoir parce que c'était la. Vous imaginez bien l'ambiance à la fin du mois de juin 1944, où les bombardements, on l'a vu la dernière fois, ça dégringole de partout, où la Gestapo et la milice descendent les gens, on arrête les résistants, on les torture, on les enferme, on les déporte. Donc le père de Bernard, il est dans une vieille maison derrière l'étang de Clairefontaine. Et lui, il braconne. Donc il ramène de la viande pour les gens qui sont cachés. Donc pour les résistants, pour les gens que la famille Landau, au-dessus de chez lui, où il y a des enfants juifs réfugiés, etc. Donc il est ravitailleur.
Il fait un peu de la résistance quand même, du coup. Il fait un peu de la résistance quand même.
Bien sûr qu'il fait de la... C'est un moyen de résistance haute. Il n'y a pas que la résistance avec les armes. Hein? C'est-à-dire maintenir quelque chose, d'abord, de dire qu'il chasse alors que la chasse est interdite, dire qu'il y a de la viande alors que tout est sous contrôle, et lui, il ramène de la viande pour les familles, pour les... Voilà. Le 28 juin 1944, Louis Dupuis, son patron, est allé faire un tour. Ils ont coupé les foins la veille et il part avec sa femme pour voir si les foins sont secs, si on peut les botteler et si on peut les rentrer. Alors, il s'en va à un kilomètre à peu près de la maison. Et puis, sa femme lui dit, les foins sont bons. Et à ce moment-là, il y a Bernard qui arrive pour donner un coup de main. Son patron lui dit, bon, les foins sont prêts. Tu retournes, tu vas à la maison et puis tu ramènes le jument pour qu'on puisse atteler la charrette et puis qu'on charge ça. Et Bernard prend le vélo, retourne à la maison, et quand il arrive à la maison, il voit que la Gestapo est là, la voiture est dans la cour de la ferme, et il y a les gendarmes allemands qui défoncent la porte à coups de crosse. Alors il fait vite le tour, il reprend la route du bordage, il arrive à la ferme d'à côté, il laisse son vélo, il passe à travers la haie, il prend une rotte, et il arrive retrouver son patron, qui est là, avec la patronne, et puis il dit, bon, les colliers de chiens, hein, c'est-à-dire la gendarmerie allemande, parce qu'ils avaient une plaque accrochée avec une chaîne au cou, les colliers de chiens sont en train de défoncer la porte. Alors, Louis Dupuis dit à sa femme, Marie, bon, écoute, tu vas rentrer, tu vas aller à la maison, tu risques rien, tu sais rien, tu diras rien. Et Marie dit, oui, mais... Il dit, mais moi, pendant ce temps-là, je vais me sauver. Parce que s'ils me prennent, c'est foutu. Et lui dit, elle savait pas exactement ce qu'il faisait. Il dit, je suis responsable du maquis et je suis l'adjoint du capitaine Philippot. Alors Marie reprend le chemin pour rentrer à la maison. Et puis il y a Bernard qui est là qui dit, et puis moi, qu'est-ce que je fais? Toi, tu fermes ta gueule. Tu vas retourner, tu vas prendre ton vélo, tu vas retourner à la maison, tu vas aller chercher le cheval, tu vas l'atteler et tu vas venir ici pour charger le foin. Alors, il retourne par l'autre ferme, il reprend le vélo, il rentre, et quand il arrive dans la cour de la ferme, il entend des hurlements épouvantables. Marie est en train d'être torturée. On entend de la battre avec du fil de fer barbelé. Alors lui, il dit rien, il va à l'écurie, et il essaie d'atteler le cheval. Mais les cris de Marie sont tels que le cheval ne veut pas se laisser faire, il ne peut pas arriver à passer le collier. Alors le cheval tape dans la porte, à ce moment-là, il sent dans son dos quelque chose, il y a une mitraillette qui est dans son dos. Les Allemands ont vu qu'il était là. Alors là, il ramasse des coups de crosse. On l'attrape par les cheveux. On le traîne dans la maison. Et là, sa patronne est par terre. Elle saigne du visage de partout. Et lui, on lui met un revolver. On lui dit, où il est ton patron? Il dit, je sais pas moi, où c'est qu'il est. Venir chercher le cheval. Et bing, bing. Et bon, je vais passer les détails. Il se fait taper dessus. Il se fait cogner dessus. Ça dure un moment. Les Allemands attrapent Marie, la jettent dans la chambre, où elle va voltiguer par terre. Ils attrapent Bernard et lui demandent d'aller chercher à manger. Alors Bernard va dans la cave, et avec toujours quelqu'un avec un revolver dans le dos. Et puis Bernard attrape les poudriettes, etc. Les Allemands voient qu'il y a un jambon de cochon qui est pendu au plafond. Et puis... prennent 4 bouteilles de vin, s'installent à table pour manger. Et Bernard, c'est pas trop quoi faire. Les Allemands ouvrent les 4 bouteilles de vin et servent un verre plein. Il dit à Bernard, tu goûtes de façon à ce que tu nous empoisonnes pas. Alors il boit un verre de vin. Il y en a un deuxième, il y en a un troisième, mais le troisième, c'est trop, il y a trop d'alcool. Bernard, il se sent pas bien. Alors... Il l'oblige à boire le quatrième, et Bernard, il dit non. Alors là, il ramasse une grosse raclée, il tombe par terre à coups de botte, et bon. Il relève et il le jette dans la chambre, avec la patronne. Eux, ils vont manger, ils vont faire ripaille. Il y a un des hommes qui est là, qui arrive, et qui lui parle bien français, sans aucun accent. C'est un collaborateur de la milice, un Français, travaille pour les Allemands. Et qui rentre dans la chambre et qui pose sur la table une boîte en bois, comme une boîte à musique un petit peu, avec des boutons. Il lève le couvercle, il fait quelque chose dedans, il rabaisse le couvercle, il laisse ça, et il dit à Bernard, tu touches pas à ça. Et il s'en va. Les Allemands mangent, font ripaille, et Marie est en colère, et se met à gueuler contre les Allemands, et Bernard l'attrape par les épaules en disant, taisez-vous, taisez-vous, taisez-vous. Marie, elle n'a pas compris. Bernard, il avait compris que cette drôle de machine, là, C'était quelque chose pour les espionner. C'était parmi les premiers magnétophones qui venaient d'être créés, qui ont été créés en 1942. Et donc, il fait taire Marie. Il reste là à peu près une heure à rien dire, ni l'un ni l'autre. Puis les Allemands ont fini de manger, ont fini de biturer, ont fini de rentrer dans la chambre, attrapent Bernard par les cheveux, le sortent en cognant contre le mur et le ramènent là. Mettent dans les mains d'un soldat allemand qui est armé et vont s'occuper de Marie, c'est-à-dire vont à nouveau l'abattre. Et celui qui est armé dit à Bernard, « Où est-ce que tu étais ce matin ?» Ben Bernard, il dit, j'étais en train de faire le foin avec mon patron là-bas. Ben, où il est ton patron? Ben, il doit être en train de faire du foin. Il a le revolver dans le dos et ils s'en vont. Il y a à peu près 800 mètres. Ils arrivent à l'entrée du champ. Ben, il y a la charrette qui avait été amenée la veille, mais il y a pas le cheval, il n'y a pas le patron, il y a rien. Donc, il fait labourer le dos avec le canon. Et un peu plus loin, il y a une maison qui s'appelle le Poti. Qui a 77 ans, et l'Allemand dit, on va aller là-bas. Ils vont là-bas. Le père Horry est assis sur un banc face au champ. Il y a juste la clôture. L'entrée est sur la route départementale. L'Allemand le pousse, rentre dans la maison, et là, il rentre le premier, et Bernard est derrière. Et Bernard fait signe au père Horry de rien dire. Et le père Horry, quand on lui demande... Où est-ce qu'il est, votre voisin? C'est qu'il est du puits. Mais Père Horry dit, je sais pas, t'es là ce matin, mais moi, je pose pas mon temps là, je fais la pause, mais bon... Et l'Allemand et Bernard reviennent. Ils retournent à la maison. Tout du long, c'est des coups de crosse, c'est des coups de pied, c'est des... Et quand il arrive à la maison, il voit sa patronne dans un état lamentable, avec des bleus partout, qui est en train de faire un baluchon avec quelques affaires. Et les gars de la Gestapo qui l'attrapent, qui la poussent dans la voiture. Ils arment le revolver, ils le mettent sur la tête de Bernard. Puis il lui dit, tu vois, toi, t'as de la chance. Il n'y a que 5 places dans la voiture. Et avec ta patronne, on ne peut pas t'emmener. Donc tu vas rester là. Et tu ne bouges pas de là. On repassera. Hein. Et tu vas t'occuper de la ferme, comme si rien n'était. Que personne ne sache ce qui s'est passé. Ils s'en vont. Juste avant de partir, sa patronne, en passant, le prend dans ses bras, lui fait une bise, alors qu'elle n'avait jamais été maternelle, mais là, Bernard, il n'en revient pas. Puis Bernard, il me dit, je me suis retrouvé au milieu de la cour, puis je me suis mis à chioler, mais à chioler comme pas possible. Qu'est-ce que j'allais faire? Et donc, heureusement, il y avait Madame Hamelin, la voisine, qui, dès que la traction est partie, est venue, en passant par une route derrière, a appelé Bernard, puis a dit, bon, t'es pas tout seul. Je vais te faire à manger, on va se débrouiller tous les deux. Et puis Bernard, il dit, bah oui, parce qu'il n'y a pas que ça. Moi, je ne sais pas traire les vaches. Moi, je suis un commis de culture. Les vaches, c'était les femmes, souvent, qui faisaient ça. Et alors, eh ben lui, il ne t'occupe pas. Moi, je vais traire les vaches, les tiennes et les miennes. Puis toi, tu seras le patron des deux fermes pour faire le reste. Bon, on arrête là. C'est comme ça que Bernard s'est retrouvé tout seul pendant 52 jours. Parce que personne n'osait venir, parce que la Gestapo avait dit qu'elle reviendrait. Et donc, il fallait qu'il fasse marcher la maison, qu'il s'occupe de faire les cultures, de faire tout ça. Bon, voilà l'histoire de Bernard.
Voilà l'histoire de Bernard. C'est ainsi que s'achève le troisième volet de cette émission qui porte sur la résistance dans le sud de la Sarthe avec notre invité, Monsieur Jean-Claude Després. Je remercie les fidèles radioteurs de leur présence et de leur écoute, Solal, Steve, Zoélie, Marie, Jade et Lana. Alors ce n'est pas la toute fin puisqu'on ne sait pas ce que devient Marie et que les radioteurs auront beaucoup d'autres questions à poser à Monsieur Després avant de terminer ce chapitre. On se retrouve donc la semaine prochaine pour la fin de cette aventure. Très bonne écoute sur les ondes de Radio Prévert.